Chapitre 11. Jour d'expiation. Certaines religions, Yémin le savait, affirment qu'il existe des royaumes où les démons règnent et détiennent le pouvoir de torturer les hommes pour l'éternité. Le navire, battu par la violence du vent et de la pluie, peuplé de créatures bipèdes qui hurlaient et se battaient entre elles, ressemblait à un de ces mondes souterrains. Les saintes écritures de Sa n'évoquaient aucune croyance en de tels lieux. Ce sont les hommes eux-mêmes qui créent leurs propres tourments, songeait Yémin. Non le bienveillant parent de tous, qui regarde seulement ses enfants avec douleur. Cette nuit-là, le jeune garçon avait embrassé l'entière vérité des enseignements de Sa. Tous les occupants du navire étaient humains, tous étaient des créatures de Sa. Et pourtant, ce n'était pas le vent rageur ni la pluie battante qui parcourait le bateau en versant le sang et en laissant derrière eux des corps sans vie. Non, les seuls responsables en étaient les hommes du bord qui s'entretuaient. Ça n'avait rien à y voir. Ça n'était pour rien dans cette horreur. Dès l'instant où Sa'Adar avait assommé Gantry avec la lanterne, la situation avait complètement échappé à Yémin. Ce n'était pas lui qui avait entamé ce carnage. Il n'était pas responsable de ce massacre. Il ne se rappelait même pas avoir essayé de peser le pour et le contre. Il avait simplement suivi Sa'Adar pour l'aider à détacher les esclaves, car ce geste lui avait paru juste. Plus juste qu'avertir son père et son équipage? Non. Il ne fallait pas poser cette question. Il ne fallait même pas lui permettre d'exister. Toutes ces morts n'étaient pas de sa faute, il se le répétait sans cesse. Ce n'était pas sa faute. Ce torrent de haine, une fois déchaîné, comment un garçon tout seul aurait-il pu l'endiguer? Il était pareil à une feuille emportée par un vent de tempête. Il se demandait si Gantry avait partagé cette impression. En compagnie de Sa'Adar, il libérait les faces de cartes au plus profond des cales de la Vivacia, quand des hurlements avaient retenti au-dessus d'eux. Dans leur hâte de se précipiter dans la mêlée, les faces de carte l'avaient littéralement piétiné, Sa'Adar à leur tête, la lanterne à la main. Yémin s'était retrouvé seul dans le noir complet, effrayé, désorienté, et à présent il avançait à tâtons dans les cales crasseuses, en enjambant les esclaves trop faibles ou trop terrifiés pour prendre part à la révolte. D'autres erraient sans but, égarés, en s'appelant les uns les autres et en demandant ce qui se passait. Yémin se fraya à un passage parmi eux, les contournant quand il ne pouvait faire autrement, mais ne parvint pas à trouver l'escalier qui menait au panneau de cale. Il était sûr de connaître chaque pouce du navire, mais l'intérieur de la Vivacia s'était transformé en un labyrinthe ténébreux de morts et de puanteurs, plein de gens terrorisés. Au-dessus de lui, sur le pont, il entendait des pas précipités et des cris de colère et de peur à la fois, ainsi que des hurlements d'agonie. Soudain, un nouveau cri éclata, suraigu, résonnant dans la cale et suscitant en écho des cris de terreur parmi la masse des esclaves.
« Vivacia !»
fit Yémin dans un hoquet. Puis
« Vivacia !»
cria-t-il en espérant qu'elle l'entendrait et comprendrait qu'il venait la rejoindre. Ses mains rencontrèrent soudain l'escalier, et il le grimpa quatre à quatre. À peine sorti sur le pont, sous une pluie battante, il trébucha sur le corps d'un matelot. Le cadavre de Clément émergeait d'un panneau de cale à demi fermé. Dans l'obscurité, Yémin ne vit pas comment il s'était fait tuer, mais il était bel et bien mort. Il s'agenouilla près de lui, au milieu du fracas des combats qui se poursuivaient sur le navire, toute son attention concentrée sur le jeune matelot sans vie. La poitrine de Clément était encore tiède. Les flots de pluie et les embruns avaient déjà refroidi son visage et ses mains, mais le reste de son corps perdait sa chaleur plus lentement. Yémin se rappela soudain que d'autres mouraient au même instant, esclaves et hommes d'équipage mélangés, et que Vivacia partageait leur agonie à tous. Elle la ressentait toute seule. Il se retrouva debout, en train de courir tant bien que mal vers elle, avant d'avoir compris ce qu'il faisait. Quelques hommes d'équipage avaient trouvé refuge dans le passe-avant pour dormir sous de grossiers abris de toile, préférant le vent et la pluie à la puanteur suffocante des ponts inférieurs. À présent, les tentes improvisées étaient effondrées, déchiquetées par les éléments. Tandis que les hommes se déchiraient entre eux, les chaînes des fers soudain transformées en armes mortelles. Yémin se faufila entre les combattants saisis par la frénésie du sang en hurlant
« Non, non, arrêtez! Le navire ne pourra pas le supporter! Il faut arrêter tout de suite !»
Mais nul ne l'écoutait. Des corps jonchaient le pont, certains agités de soubresauts, d'autres inertes. Il les enjamba d'un bond. Il ne pouvait rien pour eux. Le seul à qui il pouvait peut-être apporter son aide était le navire qui criait à présent son nom dans la nuit. Yémin se prit les pieds dans un objet, un cadavre peut-être, et tomba sur le pont. Il se releva, évita un homme qui cherchait à l'attraper et avança à tâtons dans la pluie et l'obscurité jusqu'à ce que ses mains touchent l'échelle qui menait au gaillard d'avant.
« Vivacia !»
cria-t-il d'une voix qui lui parut ténue et pitoyable dans la tempête croissante. Pourtant, elle l'entendit.
« Yémin, Yémin !»
hurla-t-elle à tue-tête comme un enfant en proie à un cauchemar, appelle sa mère. Il grimpa sur le gaillard d'avant, mais retomba en arrière alors que la Vivacia se cabrait follement sur une vague. L'espace d'un instant, il ne put que se retenir à un barreau de l'échelle en essayant de ne pas se noyer. La vague passée, il se redressa et courut sans réfléchir jusqu'au bastingage avant auquel il s'agrippa. Il ne percevait rien de la figure de proue et ne voyait d'elle qu'une ombre.
« Vivacia !»
cria-t-il. Elle ne répondit pas. Il serra la lisse à son fer mal aux mains, tendit son esprit vers elle de toutes ses forces, et soudain, comme deux mains qui se joignent avec bonheur dans une nuit froide, sa conscience entra en contact avec la sienne. Puis l'horreur et le bouleversement de la vive nef se déversèrent dans l'esprit de Yémin.
« Ils ont tué Confrette. Il n'y a plus personne à la barre !»
La figure de proue et le garçon plongèrent dans l'eau froide et salée, et le pont de bois sorcier devint glissant sous les doigts de Yémin. Dans les ténèbres, il partagea la conscience et le désespoir de la vive nef tout en s'efforçant de survivre. Il sentit la mort omniprésente en elle et perçut aussi sa course erratique alors que les vents de la tempête la poussaient dans les vagues de plus en plus hautes. Son équipage avait été chassé de ses tâches. Retranché dans la dunette, certains vendaient chèrement leur peau. D'autres agonisaient lentement sur le pont qu'ils avaient si souvent parcouru pour répondre à leurs devoirs. À mesure que les vies s'éteignaient, on eût dit que Vivacia perdait des parties d'elle-même. Jamais Yémin n'avait eu autant conscience de la vastitude de la mer et de la petitesse du navire qui protégeait son existence. Malgré les vagues qui déferlaient sur ses ponts, il réussit à rester debout.
« Que dois-je faire ? »
cria-t-il.
« Va à la barre !»
lui répondit-elle à travers le mugissement du vent.
« Reprends le contrôle du gouvernail !»
Sa voix s'enfla soudain en un puissant rugissement.
« Et dis-leur de cesser de s'entretuer, ou ils mourront tous ! Tous, j'en fais le serment !»
Yémin se retourna vers le passavant, prit une inspiration la plus profonde possible et hurla aux hommes aux prises les uns avec les autres.
« Vous l'avez entendu ? Elle va tous nous tuer si vous ne cessez pas tout de suite de vous battre. Arrêtez vos combats. Occupez-vous des voiles, ceux qui savent, ou personne ne survivra à cette nuit. Et laissez-moi me rendre à la barre. »
La vive nef fonça de nouveau dans une vague. La muraille liquide attrapa le jeune garçon par derrière et l'emporta. Il n'y avait plus de pont, plus de gréement, plus rien que de l'eau qui ne donnait aucune prise à ses mains. Peut-être était-il déjà passé par-dessus bord sans même s'en rendre compte. Il ouvrit la bouche pour crier, mais c'est de l'eau saumâtre qui s'y engouffra. Et puis, brutalement, il se trouva plaqué contre le bastingage de bâbord. Il s'y agrippa et résista à la puissance du flot qui cherchait à le pousser à la mer. À côté de lui, un esclave eut moins de chance. Il heurta la lisse, vacilla, puis tomba à l'eau. La vague enfin s'écoula par les dalles. Sur le pont, des hommes se convulsaient comme des poissons échoués, suffoquant et recrachant de l'eau. Dès qu'il en fut capable, Yémin se redressa et se dirigea tant bien que mal vers l'arrière, comme un insecte dans une mare, se dit-il, luttant aveuglément parce que ce qui vit essaie toujours de rester vivant. La plupart des hommes qui occupaient le pont n'étaient manifestement pas des marins, vu la façon éperdue dont ils se jetaient sur les bastingages et les cordages pour s'y accrocher, et ils parurent aussi surpris par la déferlante suivante que par la précédente. On avait dû trouver une clé de fer, car certains esclaves n'arboraient plus aucune chaîne, tandis que d'autres portaient les leurs sans y prêter plus d'attention que si c'était leur chemise. Des visages apeurés apparaissaient dans les panneaux de cale ouverts et criaient des conseils et des questions au groupe du pont. Au passage de chaque vague géante, ils reculaient pour éviter de se faire tremper, mais ils ne paraissaient pas se préoccuper de l'eau qui inondait l'intérieur du navire. Des cadavres d'esclaves et d'hommes d'équipage flottaient dans le passavant, allant et venant au gré des soubresauts du navire. Il les contempla, effaré. S'étaient-ils battus pour leur liberté seulement pour périr noyés? Avaient-ils tué tout l'équipage pour rien? Il entendit soudain s'élever la voix de Saadar.
« Le voici, c'est notre petit gars. Yémin, mon garçon, viens par ici. Ils se sont barricadés là-dedans. Y a-t-il un moyen d'enfumer ces rats pour les obliger à sortir ?»
Il commandait un groupe de faces de cartes à l'expression triomphante qui se tenait devant la porte du quartier des officiers dans la dunette. Malgré la tempête et les mouvements désordonnés du bateau, il voulait leur curer.
« Nous allons sombrer si je n'arrive pas à la barre !»
leur cria-t-il. Cherchant au plus profond de lui-même, il s'efforça de prendre un ton autoritaire, comme un homme.
« Cessez de vous entretuer, ou c'est la mer qui nous achèvera tous. Laissez sortir l'équipage pour qu'il reprenne le navire en main aussi bien qu'il le pourra, je vous en conjure. Nous embarquons de l'eau à chaque vague. »
Il se rattrapa à l'échelle de la dunette au moment où un nouveau paquet de mer s'abattait, et il vit avec horreur l'eau s'engouffrer dans les cales comme de la bière dans des chopes.
« Refermez solidement ces panneaux »
hurla-t-il.
« Et mettez des hommes aux pompes, sinon tous les malades et ceux qui se cachent sous les ponts vont finir noyés avant nous !»
Il leva les yeux vers les mâts.
« Il faut aussi ferler les voiles pour donner moins de prise au vent !»«
Pas question que je grimpe là-haut !»
déclara un esclave d'une voix forte.
« Je ne me suis pas libéré de mes chaînes pour crever d'une autre façon !»«
Alors tu mourras quand nous coulerons !»
rétorqua Yémin. Et sa voix se fêla, prenant le timbre aigu d'un enfant. Certains esclaves essayaient sans grande conviction de refermer les panneaux, mais aucun n'osait lâcher la prise qu'il avait trouvée pour effectuer efficacement le travail.
« Des écueils !»
hurla Vivacia.
« Des écueils ! Yéma, la barre ! La barre ! Laissez sortir les hommes d'équipage ! Promettez-leur de les épargner s'ils vous sauvent la vie !»
rugit le jeune garçon à Saadar. Puis il grimpa l'échelle aussi vite qu'il le put. Confret était mort à la barre, frappé par derrière. Celui qui l'avait tué l'avait laissé sur place, à demi enchevêtré dans les poignets, et seul le poids de son corps avait empêché le gouvernail de claquer de droite et de gauche sous l'assaut des vagues.
« Je regrette, pardonne-moi si tu savais comme je regrette !»
Yémin tenait des propos sans queue ni tête, tout en écartant le corps élancé de son dernier poste. Il s'approcha de la barre et la saisit, interrompant violemment son roulement erratique. Il inspira profondément et cria
« Dis-moi que faire !»
Il forma le vœu que sa voix porterait jusqu'à l'autre bout du navire malgré la tempête.
« À bâbord toutes !»
lui répondit Vivacia, et sa voix parut venir non seulement portée par le vent mais aussi en vibrant à travers ses mains. Il s'aperçut que les poignées de la barre étaient elles aussi en bois sorcier. Il s'y accrocha mieux, et, ignorant s'il pêchait ou non, il tendit son esprit, non pas vers ça, mais avec l'unicité avec le navire, en abandonnant toute crainte de se perdre en lui.
« Du calme !»
murmura-t-il, et il sentit la vive nef s'accorder avec lui presque avec frénésie. Il y avait de la peur en elle, mais aussi du courage. Il partageait à présent sa perception de la tempête et du courant, et la coque de bois sorcier était devenue une extension de lui-même. La barre avait été conçue pour un adulte bien musclé. Yémin avait observé comment on pilotait. Il avait même pris la place du timonier une fois ou deux par temps calme, mais jamais lors d'un grain pareil, et jamais sans personne près de lui pour lui donner des instructions et rattraper la barre si elle menaçait de lui échapper. Yémin usa de tout le poids de son corps frêle pour la faire tourner, et chaque quart qu'il gagna était une petite victoire. Mais le navire était-il capable de réagir à temps au mouvement du gouvernail? Il lui sembla qu'il plongeait plus droit dans la vague suivante, qu'il la tranchait au lieu d'être déporté par la masse liquide. Sous la pluie battante, il plissa les yeux, mais ne vit que l'obscurité. Ils auraient aussi bien pu se trouver en plein milieu de la mer sauvage, sans rien que de l'eau à l'infini autour d'eux. Le ridicule de sa situation le frappa soudain. La vive nef et lui luttaient pour sauver les passagers du bateau, alors que tous les autres étaient occupés à s'entretuer.
« Il faut que tu m'aides !»
dit-il calmement, en prononçant tout haut des mots qu'elle percevrait de toute façon.
« Il faut que tu joues le rôle de ta propre vigie à l'affût des vagues et des écueils. Donne-moi tout ce que tu sais !»
Dans le passe-avant, des hommes criaient. Certaines voix paraissaient étouffées, et Yémin supposa que les esclaves négociaient avec l'équipage pris au piège. Mais à la fureur qui transparaissait dans leur ton, il y avait peu de chances qu'ils trouvent un terrain d'entente à temps pour sauver le navire.
« Ne pense plus à eux, » se dit-il.
« Il n'y a plus que toi, madame, » fit-il à mi-voix, « toi et moi seuls. Tâchons de garder la vie sauve. »
Et il resserra les mains sur la barre. Entendit-il la réponse de la vive nef? Fût-ce sa propre résolution qui lui donna une vigueur nouvelle? Toujours est-il qu'il se dressa dans une attitude de défi face à la pluie et à l'obscurité qui brouillait sa vue. Il ne capta aucun appel de Vivacia, mais sa perception du navire lui parut changée. Les voiles contrariaient ses manœuvres, cependant il n'y pouvait rien. La pluie se modifia, toujours aussi insistante, mais comme plus légère. Néanmoins, alors que la tempête commençait à se calmer et que les premières lueurs grises de l'aube pointaient, la barre devint plus lourde et difficile à manier.
« Nous sommes pris dans le courant !»
Le cri de Vivacia porta jusqu'à Yémin.
« Il y a des rochers droit devant. Je connais ce chenal depuis des années. Il n'aurait pas fallu passer par ici. Je suis incapable de m'écarter toute seule des écueils !»
Yémin entendit un bruit de chaîne, puis le choc d'un corps lourd sur le pont. Il jeta un coup d'œil et vit un groupe d'hommes qui avançaient dans sa direction en poussant entre eux plusieurs prisonniers porteurs de fer aux pieds et aux poignets. Lorsqu'ils furent arrivés près du jeune garçon, quelqu'un poussa durement le captif de tête qui tomba à genoux sur le pont détrempé. D'une voix tonnante, Saadar déclara
« Il prétend nous piloter en lieu sûr si nous lui laissons la vie sauve. »
Plus bas, il ajouta
« Il affirme que nous ne passerons pas ces rochers sans son aide, et que lui seul connaît le chenal. »
Alors l'homme se redressa péniblement, et malgré la maigre lumière de l'aurore, Yémin reconnut Torg. Sa chemise était déchirée dans le dos et des lambeaux flottaient dans le vent.
« C'est toi ?»
fit Torg. Il rit tout bas, incrédule.
« C'est toi qui nous as fait ça, toi !»
Il secoua la tête.
« Non, c'est impossible. Tu es fauchetons, mais tu n'as pas de tripe. Tu t'accroches à la barre comme si le navire t'appartenait, mais tu ne le commandes pas en réalité. »
Malgré ses chaînes et les visages haineux qui l'entouraient, il cracha par terre.
« Tu n'as même pas eu le cran de le prendre alors qu'on te l'offrait sur un plateau d'argent !»
Il parlait vite et avec violence, comme si les vannes de sa rage avaient soudain lâché.
« Ah, je savais tout du petit marché entre ton père et toi. Je l'avais entendu en parler un jour. Il devait te nommer second le jour de tes 15 ans. Moi, j'avais trimé pour lui comme un chien pendant 7 ans, mais il s'en fichait bien. Il pouvait bien crever, le vieux Torg. Le commandement reviendrait à Gantry et le poste de second à un gamin avec des joues comme des fesses de bébé. Et moi, je serai à tes ordres. »
Il éclata de rire.
« Eh bien, il est mort, le Gantry, il paraît. Et ton père ne vaut pas beaucoup mieux. »
Il croisa les bras sur sa poitrine.
« Tu vois cette terre sur Tribord? C'est l'île Tordue. Il aurait fallu passer de l'autre côté, parce que, devant nous, il y a des rochers du courant. Alors, si tu veux un marin à la barre de Sraffio, t'aurais peut-être intérêt à ne pas faire le méchant avec Torg. Tu devrais peut-être même lui proposer mieux que la vie sauve pour vous tirer le cul de ce piège à rat.
Et il eut un sourire de crapaud. Soudain certain que les révoltés avaient besoin de lui, qu'il était en mesure de retourner la situation à son profit.
Et tu ferais peut-être bien de te manier, parce que les écueils ne sont plus très loin.
Derrière lui, les nouveaux matelots embauchés à Jamelia jetèrent des coups d'œil inquiets vers l'avant malgré l'obscurité.
Que devons-nous faire?
Demanda Saadar à Yéma.
Peut-on lui faire confiance?
Les circonstances étaient tellement horribles qu'elles en devenaient risibles. On lui demandait son avis. À lui, Yéma. On remettait la survie du navire tout entier entre ses mains. Il leva les yeux vers le ciel qui s'éclairait. Dans le gréement, deux esclaves s'évertuaient à faire les dévoiles. Que ça les prenne tous en pitié. Il resserra les mains sur la barre et se tourna vers Torg, qui arborait une expression suffisante. Le lieutenant était-il capable de jeter le bateau sur les rochers par pure vengeance? Pouvait-on pousser si loin l'esprit de revanche, au point d'y laisser la vie? Yéma sentit son tatouage le picoter.
« Non, » dit-il enfin, « je ne lui fais pas confiance, et je préférais le tuer plutôt que de lui remettre la barre de mon navire. »
Une face de carte haussa les épaules.
« Les inutiles meurent, » dit-il d'un ton froid.
« Attendez !»
s'écria Yéma. Mais il était trop tard. D'un geste aussi efficace que celui d'un débardeur déplaçant des balles de marchandises, la face de carte souleva le marin corpulent au-dessus de sa tête, puis le projeta par-dessus l'étrave avec une force telle qu'il tomba à genoux. Torg avait disparu et tout s'était passé en un clin d'œil, sans fioriture. Il n'avait même pas eu le temps de pousser un cri. Yéma avait simplement conseillé de ne pas lui faire confiance et Torg était mort. Les autres marins s'étaient agenouillés et suppliaient en pleurant qu'on les épargne. Un affreux dégoût envahit Yéma. Et ce n'étaient pas les marins implorants qui le lui inspiraient.
« Enlevez-leur ces chaînes et envoyez-les dans la mâture !»
ordonna-t-il d'un ton cassant à Saadar.
« Qu'ils prennent autant de riz que possible et qu'ils m'avertissent s'ils aperçoivent des écueils !»
C'était un ordre stupide et inutile. Trois hommes n'étaient pas en mesure de manœuvrer à eux seuls un navire de cette taille. Alors que Saadar déverrouillait les fers, Yéma demanda presque malgré lui
« Où est mon père? Est-il vivant ?»
Les trois hommes le regardèrent d'un air égaré, et ils comprirent qu'aucun d'entre eux ne savait la vérité. Son père avait dû interdire à l'équipage tout bavardage à propos de son fils.
« Où est le capitaine Havre ? »
demanda-t-il d'une voix tendue.
« Il est sous le pont, la tête et les côtes amochées, »
répondit un des marins. Yéma réfléchit mûrement et décida en faveur du navire. S'adressant à Saadar, il déclara
« J'ai besoin du capitaine, qu'on me l'amène avec ménagement, et il ne me servirait à rien inconscient. »
« Et les inutiles meurent, » ajouta-t-il in petto, tandis que le prêtre envoyait des hommes chercher le commandant. La menace d'un garde-chiourme devenait la règle de conduite d'un esclave. Pour sauver l'équipage, il allait devoir démontrer aux asservis libérés qu'ils étaient utiles.
« Ôtez leurs chaînes à ces deux-là aussi, »
ordonna-t-il.
« Que tous les marins en état de se déplacer montent dans la mâture. »
Une face de carte haussa les épaules.
« Il ne reste que ces deux-là. »
Deux survivants seulement, et son père? Que ça lui pardonne. Il se tourna vers l'homme qui avait jeté Torg par-dessus bord.
« Toi, tu as tué un marin qui aurait pu nous être utile, alors tu vas prendre sa place. Monte au nid de pie et écris-moi ce que tu vois. »
Il promena sur ceux qui l'entouraient un regard mauvais. Les voix restaient les bras ballants, le mettaient soudain dans une fureur noire.
« Vous autres, assurez-vous que les panneaux de cale sont bien fermés et occupez-vous aussi des pompes. Le navire enfonce trop, je le sens. Combien d'eau nous avons embarqué, ça seul le sait. »
Et c'est d'une voix plus calme, mais tout aussi sèche, qu'il ajouta
« Débarrassez le pont de tous les corps et faites-moi disparaître ces tentes effondrées. »
Les yeux du premier homme se portèrent vers la minuscule plateforme au sommet du grand mât.
« Là-haut ? Mais je ne peux pas grimper là-haut !»
Le courant se comportait à présent comme une créature vivante, et la marée fonçait dans l'étroit chenal comme dans un bief. Aux prises avec la barre, Yémin répondit brutalement.
« Remue-toi si tu tiens à la vie. Tes peurs ne m'intéressent pas. Seul compte le navire à présent. Sauve-le si tu veux te sauver toi-même. »
« C'est bien la première fois que je t'entends parler comme un vrai fils. »
Du sang coagulé noircissait tout un côté du visage de Kyle Havre. Il se déplaçait avec une étrange contorsion du corps afin de ménager ses côtes brisées. Et il avait le teint plus blême que le ciel gris qui surplombait la mer. Il regarda son fils qui tenait la barre du navire, les faces de cartes qui se hâtaient lourdement d'aller exécuter ses ordres, les débris qui jonchaient le pont résultat de l'insurrection, et il secoua lentement la tête.
« Il te fallait ça pour trouver ta virilité. »«
Je l'ai toujours possédée, »
répondit Yémin du tac au tac. « Mais vous refusiez de la reconnaître parce que je n'étais pas vous. Je n'étais pas fort, je n'étais pas grand, je n'étais pas brutal. » « J'étais moi. »«
Tu n'as jamais fait le moindre effort. Tu ne t'es jamais intéressé à ce que je pouvais te donner. »
Kyle secoua de nouveau la tête.
« Ce bateau et toi, vous n'êtes que des enfants gâtés. »
Yémin resserra sa prise sur la barre.
« Ce n'est pas le moment de discuter de ça. La Vivacia ne peut pas se piloter toute seule. Elle m'aide, mais j'ai besoin de vos yeux aussi. » J'ai besoin de votre savoir. »
Il ne pouvait dissimuler l'amertume qui perçait dans sa voix.
Conseillez-moi, père.
C'est vraiment ton père ? Demanda Saadar abasourdi.
Il a réduit son propre fils en esclavage ?
Ni Yémin ni Kyle ne lui répondirent, le regard fixé droit devant eux dans la tempête, et au bout d'un moment, le prêtre les quitta pour se retirer à l'arrière du navire.
« Que comptes-tu faire ?»
demanda soudain Kyle.
« Même si tu franchis sans casse ce chenal, tu n'as pas à bord assez d'hommes expérimentés pour manœuvrer ce bateau. Les eaux sont traîtresses par ici, même pour un équipage entraîné. »
Il eut un grognement méprisant.
« Tu vas perdre ta vive nef avant même de l'avoir conquise. »
« Je ne puis faire que mon possible, » dit Yémin à mi-voix. « Je n'ai pas choisi de me retrouver dans cette situation. » Mais je crois que ça viendra à mon secours.
Ça !
Kyle haussa les épaules d'un air écœuré. Puis il reprit.
Maintiens-la au milieu du chenal. Non, quelques quarts un peu plus à bâbord. Là. Maintenant, tiens le cap. Où est Torg ? Tu devrais l'envoyer en haut nous annoncer ce qu'il voit.
Yémin réfléchit un instant, mêlant l'opinion de son père aux émotions de Vivacia. Puis il effectua la correction nécessaire.
« Torg est mort, »
dit-il enfin.
« Il s'est fait jeter par-dessus bord parce qu'un esclave l'a considéré comme inutile. »
Du menton, il désigna l'homme qui s'accrochait, pétrifié de terreur, à mi-hauteur du mât.
« Normalement, il devrait être de vigie. »
Un silence épouvanté suivit ses paroles, puis avec un effort, son père dit
« Tu as fait tout ça !»
Il parlait à voix basse afin de n'être entendu que de Yémin.
« Tu as fait tout ça uniquement pour t'emparer du navire aujourd'hui au lieu d'attendre quelques années. »
Aux oreilles de Yémin, la question en elle-même donnait la mesure de la distance qui les séparait. L'abîme entre eux était immense et infranchissable.
« Ce qui s'est produit à bord de ce navire n'avait rien à voir avec ce que vous croyez. »
C'était une déclaration stupide. mais il aurait pu user sa salive jusqu'à la fin de ses jours sans réussir à faire comprendre ses motivations à son père. Tout ce qui les unissait vraiment, c'était le navire.
« Essayons de lui faire franchir ses écueils, » proposa-t-il. « Ne parlons que de ça. C'est le seul sujet sur lequel nous sommes d'accord. »
Après un long silence, son père vint se placer derrière lui et posa sur la barre une main légère à côté de celle de son fils. Puis il leva les yeux vers le gréement et repéra un de ses hommes.
« Kalt, laisse tomber ce que tu fais et grimpe au nid de pie. »
Puis il balaya du regard toute l'eau qui s'étendait devant le bateau.
« On y va !»
dit-il doucement à Yémin, tandis que la vive nef prenait soudain de la vitesse.
« Vous m'avez vendu !»
dit Malta d'une voix faible.
« Vous m'avez vendu à un monstre pour rembourser un bateau, pour qu'on m'emmène dans un bivouac au milieu des marécages où il me poussera des verrues partout et où je ferai des enfants pendant que vous autres vous enrichirez grâce à de nouveaux contrats avec la famille Rouprousse. Si vous vous imaginez que je ne sais pas comment ça marche, vous vous trompez. En général, quand on donne une femme de Terrilleville à un homme du désert des pluies, sa famille y gagne plus que sa part de profit. »
On l'avait tiré de bonne heure de son lit et amené dans la cuisine pour lui annoncer la nouvelle. Le petit déjeuner n'était même pas encore prêt.
« Malta, tu te trompes !»
dit sa mère de son ton le plus raisonnable. Au moins, sa grand-mère affichait franchement ce qu'elle éprouvait. Elle termina d'emplir la bouilloire et la posa sur le fourneau, puis se pencha pour tisonner le feu.
« En réalité, tu t'es vendue toute seule !»
fit-elle d'un ton faussement affable, contre une écharpe, un bijou de feu et un coffre à rêves.
Et ne prétends pas que tu ignorais ce que tu faisais. Tu en sais bien plus long sur beaucoup de choses que tu ne le laisses paraître. »
Malta se tut un moment, puis déclara d'un ton maussade :
« Tous ces objets sont dans ma chambre. Je peux les rendre. »
Le bijou de feu. Elle renâclait à l'idée de s'en séparer. Mais cela valait mieux que se retrouver promise à un habitant pustuleux du désert des pluies. Elle se revit l'embrassant dans son rêve et un frisson d'horreur la parcourut. Derrière son voile, ses lèvres devaient être couvertes de verrues et la seule idée de se baiser lui donna envie de cracher. Ce n'était pas juste d'envoyer un songe où il était si beau alors qu'il ressemblait en vérité à un crapaud.
« C'est un peu tard, »
dit sa mère avec sévérité. « Si tu ne nous avais pas menti à propos du coffre à rêve, la situation aurait peut-être pu s'arranger.
Non, c'est faux. Tu avais déjà accepté une écharpe et un bijou de ce garçon, et tu lui avais fait don d'une coupe dans laquelle tu avais bu. »
Elle s'interrompit, puis reprit d'un ton radouci.
« Malta, personne ne t'oblige à te marier. Nous avons seulement consenti à ce que le jeune homme te rencontre, et tu ne resteras jamais seule avec lui. » Il y aura toujours grand-mère, Rack, Nounou ou moi-même lors de vos rendez-vous. Tu n'auras rien à craindre. »
Elle s'éclaircit la gorge et poursuivit d'un ton nettement plus froid.
« D'un autre côté, je ne tolérerai aucune impolitesse. Je ne veux aucun retard ni aucune grossièreté envers ce jeune homme. Tu le traiteras comme n'importe quel visiteur honorable de notre maison. Par conséquent, je ne veux pas entendre parler de verrues, de marécages ni d'enfants. »
Malta se leva de table pour aller se couper une tranche du pain de la veille.
« Parfait. Il me suffira de me taire, »
fit-elle. Comment pourrait-elle l'en empêcher?
Comment pourrait-elle l'obliger à faire la conversation à son invité ou à se montrer aimable avec lui?
Elle ne ferait pas semblant de le trouver à son goût. Il s'apercevrait rapidement qu'il la dégoûtait et il ne reviendrait plus. Voilà tout.
Elle s'interrogea. Aurait-elle l'autorisation de garder l'écharpe aux bijoux si elle lui annonçait qu'elle refusait de l'épouser? Le moment était sans doute mal choisi pour poser la question à sa mère et à sa grand-mère. Mais Rein pouvait reprendre le coffre à rêve quand il voulait. Une fois ouvert, il avait pris une affreuse teinte gris-terne comme de la cendre de cheminée. Il dégageait encore un parfum agréable, mais ce n'était pas un motif suffisant pour le conserver.
« Malta, nous ne pouvons pas nous permettre de faire affront à ces gens, »
dit sa mère. Elle avait l'air très fatiguée, voire épuisée ces temps-ci. De nouvelles rides étaient apparues sur son visage et elle soignait encore moins sa coiffure que d'habitude. Elle aurait bientôt la mine aussi rébarbative que grand-mère, qui fronçait d'ailleurs les sourcils à présent. « La question n'est pas de savoir si nous pouvons ou non nous permettre de leur faire affront. Il existe de nombreuses façons de se débarrasser d'un visiteur malvenu. La grossièreté en est une, mais pas chez nous. »
« Quand mon père va-t-il rentrer ?»
demanda Malta, sautant du coq à l'âne.
« Est-ce qu'il nous reste des conserves de pêche ?»«
On ne l'attend pas avant la fin du printemps, »
répondit sa mère avec lassitude.
« Pourquoi ?»« Parce qu'à mon avis, il ne me forcerait pas à faire semblant d'aimer quelqu'un que je ne connais même pas. Il n'y a donc rien de bon à manger dans cette maison.
Mets du beurre sur ta tartine. Et personne ne te demande d'aimer ce garçon !» éclata grand-mère. « Tu n'es pas une prostituée, il ne te paie pas pour lui faire des grâces pendant qu'il te reluque. Je dis simplement que tu dois le traiter avec courtoisie. Je suis sûr que c'est un véritable gentilhomme. Kaolun me l'a assuré, or je la connais depuis très longtemps. Tout ce qu'on te demande, c'est de te montrer respectueuse avec lui. »
Elle poursuivit d'un ton plus bas.
« Il jugera très vite que tu ne lui conviens pas, j'en suis sûr, et alors il cessera de te courtiser. »
La façon dont elle avait tourné sa phrase en faisait une insulte, comme si Malta n'était pas digne du jeune homme.
« Je ferai mon possible, »
dit Malta à contre-cœur.
Elle jeta le morceau de pain rassis sur la table.
Cela lui ferait au moins quelque chose à raconter à Dilo, qui se vantait toujours, mine de rien, du nombre de jeunes hommes reçus chez elle. C'étaient tous des amis de Serwin, Malta le savait, mais Dilo les connaissait par leur prénom. Il la taquinait et il lui offrait parfois des douceurs et des colifichets. Une fois, Malta avait reçu l'autorisation d'accompagner Dilo avec Rak au marché aux épices. Un des amis de Serwin avait reconnu la compagne de Malta et il s'était incliné très bas devant elle, sa cape flottant au vent. Il avait proposé de leur offrir de la tisane aux épices, mais Rak avait répondu qu'elle devait rentrer. Malta avait eu l'impression de n'être qu'une gamine. Rien qu'une fois, il serait agréable de pouvoir dire à Dilo qu'un jeune homme était venu la voir chez elle. Il n'était pas utile de préciser qu'il était sans doute couvert de verrues. Elle pourrait peut-être en faire un personnage mystérieux, dangereux. Elle sourit et ses yeux se firent lointains et rêveurs, comme ils le seraient lorsqu'elle parlerait du jeune homme à son ami.
Sa mère déposa sans douceur un pot de miel devant elle.
« Merci, » dit Malta en se servant d'un air absent. « Peut-être même que Serwin serait jaloux. »
« Vas-tu me laisser la vie sauve ?»
demanda Kyle Havre à mi-voix, alors que le matin grisaillait le ciel. Il s'était efforcé de s'exprimer posément, mais une violence mêlée de peur avait percé sous ses mots, et Yémin y avait aussi décelé de la fatigue. La longue nuit s'était achevée, et il avait fallu leur force à tous deux à la barre, toute l'acuité visuelle de Kalt et tous les avertissements de Vivacia pour leur faire franchir le chenal. Yémin n'avait pu s'empêcher d'admirer la ténacité de son père qui n'avait pas cessé la lutte un instant. Il se tenait toujours déjeté sur son flanc gauche à cause de ses côtes brisées, mais il avait contribué à sauver le navire. Et voilà qu'il demandait à son fils de lui laisser la vie. Ses paroles avaient dû lui arracher la gorge.
« Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ça, » dit Yémin. « Je vous en donne ma parole. »
Son regard passa de son père à Saadar, toujours accoudé à la poupe, et il se demanda quel poids aurait sa voix dans la décision à venir.
« Vous ne me croyez pas, mais votre mort me peinerait. J'ai pleuré toutes les morts qui ont eu lieu sur ce bateau. »
Les yeux de Kyle Havre restèrent braqués vers l'avant, et il répondit simplement
« Un quart de plus à tribord. »
Tout à coup, ils débouchèrent dans une vaste zone aux eaux calmes.
L'île tordue s'éloignait par l'arrière et ils arrivaient au débouché du chenal de l'Ossière. Yémin corrigea le cap. Dans la mâture, il entendait des hommes qui se disputaient à grands cris sur ce qu'il fallait faire et comment s'y prendre. Son père avait raison. Il était impossible qu'il parvienne à manœuvrer le navire avec pour tout équipage deux marins expérimentés et valides. Il resserra les doigts sur la barre. Il devait bien exister un moyen. « Aide-moi, vive nef !» murmura-t-il. « Aide-moi à décider que faire !» Il sentit sa réaction, mais il n'y perçut nulle assurance, seulement de la confiance en lui.
« Il y a un autre bateau derrière nous !» cria Saadar. « Il se rapproche très vite !»
Il observa à travers la pluie grise et persistante.
« C'est le pavillon aux corbeaux !»
s'exclama-t-il d'un ton ravi.
« Ça est vraiment venu à notre secours !»
L'homme arracha sa chemise en haillons et se mit à l'agiter à l'attention de l'autre navire.
« C'est un enfant qui tient la barre !»
cria Sorcor. La tempête s'était apaisée et la pluie elle-même commençait à cesser, mais il devait encore hausser la voix pour se faire entendre.
« Et leur ponçon sans dessus-dessous ! Il a dû y avoir une mutinerie à bord !»«
Tant mieux pour nous !»
répondit péniblement Kenith. Tout lui coûtait, tout était un effort. Il reprit son souffle.
« Prépare un groupe d'abordage. Nous l'attaquerons dès qu'elle atteindra le chenal principal. »«
Le petit a l'air de bien tenir la barre !» Même avec des voiles de travers. Attendez!
Au ton de sa voix, Sorcor n'en croyait pas ses yeux.
Capitaine, il nous hèle! On dirait que l'homme de poupe nous fait signe d'approcher!
Eh bien, faisons-lui plaisir. Groupe d'abordage, parez! Non, attendez!
Il prit une inspiration et tenta de se lever.
Je vais le mener moi-même. Gankis, viens prendre la barre. Eta! « Où est ma béquille ?»
C'était vrai. La vive nef lui était apportée sur un plateau d'argent. Sa chance avait donc tenu. Il avait cru en elle, il avait persévéré, et voilà, sa magnifique dame des mers était là. Alors qu'il s'en approchait, il songea qu'il n'avait jamais rien vu de plus beau. De la dunette de la Marietta, il avait une vue plongeante sur elle. Des cadavres avaient été entassés sur des morceaux de toile, et ses voiles étaient troussées comme les jupes d'une radasse, mais sa coque argentée luisait et ses lignes parfaites étaient un enchantement pour l'œil. Il vacilla et Eta le retint aussitôt par le bras. Gankis l'avait remplacé à la barre, et le vieux matelot lui adressa un regard étrange où se mêlaient la compassion et la peur.
« Je ne trouve pas ta béquille. Tiens, appuie-toi sur moi. Je vais te conduire au bastingage. »
En grognant sous l'effort, elle l'entraîna et il l'accompagna à petits bonds mal assurés jusqu'à ce qu'il pût s'accrocher des deux mains à la lisse.
« Mon amour, » dit-elle tout bas, « je crois que tu ferais mieux de descendre te reposer un moment. Que Sorcor s'occupe de capturer la vive nef. »«
Non !»
répondit-il avec violence. Il avait du mal à tenir sur une seule jambe, et voilà qu'elle venait l'épuiser en discussions ridicules.
« Non, elle est à moi, et je serai parmi les premiers sur ses ponts. C'est ma chance qui me l'a donnée. »«
Je t'en prie, » fit Eta d'une voix brisée. « Mon chéri, mon amour, si tu pouvais te voir en ce moment.
Sors !»
Sorcor les avait rejoints et il poussa le juron dans un souffle.
« Oh, Kenith ! Oh, capitaine !
C'est moi qui mènerai le groupe d'abordage !»
dit son commandant d'un ton sans réplique. L'homme ne discuterait pas. Après tout, Kenith avait bien réussi à faire taire cette satanée femelle.
« Bien, commandant ! »
fit Sorcor d'une voix très basse.
« Vous êtes fou ! »
cria Eta au second.
« Mais regardez-le donc, il est épuisé. Je ne l'aurais jamais laissé rester sur le pont si j'avais su ce que ça lui coûterait. »«
Laissez-le faire. »«
coupa Sorcor à mi-voix. Il avait apporté la béquille de Kenith, mais il la déposa doucement sur le pont.
« Je vais vous bricoler une chaise de gabier, commandant, et je veillerai à ce que vous montiez sans risque à bord de votre vive nef. »«
Mais... » fit Etta.
Sorcor l'interrompit encore une fois.
« Je lui donne ma parole, » dit-il sèchement.
« Regardez-le. Laissez-moi tenir ma parole envers mon capitaine. »
Plus bas, il ajouta.
« Je ne crois pas qu'on puisse faire beaucoup plus maintenant. »
« Mais... »
répéta-t-elle. Elle regarda Kenith, et quand il la regarda à son tour, elle eut l'impression que quelque chose se figeait en elle. La respiration bloquée, elle l'observa longuement. Enfin, elle s'adressa à Sorcor qui se tenait derrière Kenith.
« Dans ce cas, je l'accompagne, » dit-elle calmement.
« Nous serons deux alors, » répondit Sorcor.